Oui, Seigneur Jésus-Christ, comme Dominique a prié, nous voulons être ouverts à ta parole, chacun de nous. Autant moi, en tant que prédicateur, en tant que chacun de nous ici assemblés, Seigneur, donne-nous de pouvoir méditer les enseignements qu'on trouve dans le Nouveau Testament, en particulier ceux que nous allons voir ensemble dans l'Épître aux Philippiens. Donne-nous un cœur humble et attentif, Seigneur, à ce que tu veux nous dire aujourd'hui. En ton nom je prie, Seigneur Jésus-Christ. Amen. Laurence, je vais te demander de mettre première projection. Alors Sandra disait tout à l'heure, quand Alexandre montrait, elle disait non, montre pas les images suivantes, parce qu'il y a quelques images après. Au début, on pensait que le fichier n'était pas bien passé, donc je m'étais dit, zut, ça aurait été intéressant. Le but, c'est de vous donner une illustration de ce que veut dire marcher avec Dieu. Le titre du sermon d'aujourd'hui, Philippiens chapitre 2, versets 12 et 13, la part de Dieu est notre part dans l'œuvre du salut. La part de Dieu est notre part dans l'œuvre du salut. Avant d'en venir au texte biblique, j'aimerais vous parler de quelque chose qui va nous aider et qui sera peut-être surprenant pour certains d'entre vous. Est-ce que Laurence, tu veux bien passer à l'image suivante ? J'aimerais aujourd'hui vous parler de ce que c'est qu'un tandem. Qui a déjà vu un tandem ? D'accord ? Question suivante. Qui a déjà pédalé sur un tandem ? Alors, pour tous, je vous explique. C'est un peu comme un vélo normal, sauf que vous voyez, il y a deux pédaliers. Ensuite, vous avez un seul guidon, là. Le deuxième, il ne tourne pas. Celui-là, c'est juste pour mettre les mains, pour celui derrière. Et donc, c'est celui devant qui va tourner la roue pour l'orienter, mais les deux doivent pédaler. Alors, ce qu'il y a, c'est que c'est un peu plus compliqué qu'un vélo tout seul. Il faut travailler à deux. En général, un des conseils qu'on donne quand les gens commencent à faire du tandem, je lisais ça sur Internet, moi j'ai jamais utilisé de tandem, mais j'en ai déjà vu. Il disait, quand vous avez par exemple une montée, c'est très difficile. Il faut que celui derrière mette déjà ses pieds sur les pédales et se prépare à pédaler, et celui devant, il tient le guidon. Et puis quand ils sont prêts à partir, celui devant dit, vas-y, commence à pédaler, et quand celui derrière commence à pédaler, l'autre met les pieds dessus. Sinon, ce qui se passe en général, c'est que les deux vont tomber. Et c'est pas agréable. Donc c'est plus compliqué, ça demande un travail en commun, vraiment une bonne coordination pour que le tandem fonctionne bien. Alors on va passer à l'image suivante. Alors, comme vous voyez, ça c'est la situation la meilleure. On pédale, on avance, et c'est vraiment agréable. Des fois c'est des moments romantiques pour certains couples, ça peut être sympathique. Il y a même différents types de vélos, alors différents types de tandem. Laurence, tu vas nous montrer l'image suivante. Le tandem a à peu près 100 ans. Les premiers tandems, vélos à deux personnes, ont été faits vers la fin du 19e siècle, les dernières années du 19e siècle. Pour Colline qui vient d'Afrique du Sud, qui ne sait peut-être pas, le tandem, dans un des premiers endroits où il a été utilisé, ça a été en Afrique du Sud, pendant la deuxième guerre boer anglais vers 1899-2002. Tu savais, Colline, qu'ils avaient utilisé des tandems ? Un des problèmes qu'ils ont eu, c'est que beaucoup de chevaux mouraient et les vélos ont été très pratiques. Et donc ça, c'est à peu près il y a un siècle. Et il y avait différents types de tandem. Hein. Alors, on peut passer à l'image suivante. Ça, c'est un tandem à beaucoup de personnes. Vous avez vu combien il y en a ? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 personnes. Alors les roues, elles doivent être costauds, hein, là, pour que ça marche bien. Pourquoi c'est ?
Ça pique
en milieu. Ah ben, ça doit être solide. Et les roues, je pense qu'à l'époque, il n'y avait pas ce qu'on appelle des pneumatiques. Ça veut dire que c'était plus dur. Mais ça veut dire que c'était plus dur pour les fesses de tout le monde aussi. Hein. Il n'y avait pas d'amortisseur. C'était des roues beaucoup plus dures. Voiture ou vélo, fallait bien que ce soit amorti. Hein. Alors, on va passer à l'image suivante. Il y a des vélos modernes. Vous voyez, ça, c'est des tandems modernes. Ça, c'est les tandems où les gens sont presque assis en train de pédaler. C'est plus agréable. On en voit beaucoup en Suisse et en Allemagne, des comme ça. Ou à une personne ou à deux personnes. Oui. Hein ? Alors celui-là, il a deux roues devant, c'est un peu particulier, il y en a avec une seule roue, et ils vont pédaler. Vous avez des vélos comme ça où les gens sont presque couchés. Ça, c'est. J'en ai vu pas mal en Suisse et en Allemagne en tout cas. On va passer à l'image suivante. Il y a même des tandems de compétition, où les gens vont faire des compétitions. Donc ça vous donne un petit peu une idée de tous les types de tandems. Vous allez me dire, bon ben c'est bien, on est venu pour écouter la parole de Dieu, on n'est pas venu pour entendre parler de tandem. Alors il va falloir que je vous montre comment ça peut être intéressant de connaître les tandems. Laurence, tu vas passer à l'image suivante. Maintenant on va passer sur l'épître aux Philippiens, qui avait pour titre « Courir la course vers la perfection en Christ Jésus ». C'est pour ça qu'on a l'image d'un coureur. Tu vas passer à l'image suivante. On avait quatre chapitres. Le chapitre 1 qui était nommé « Humilité selon Christ ». Deuxième, l'évangile de Christ. Pardon, l'évangile de Christ, pardon, le numéro 1, il y a le numéro 1 au fond. Deuxième, c'était humilité selon Christ. Le troisième, justice et perfection en Christ. Et le quatrième, c'est des exhortations et louanges. Alors, est-ce que vous vous rappelez, ceux qui ont été là l'année dernière ou il y a quelques fois, si on a déjà eu des prédications sur une partie de cet épître?
Oui.
Alors, sur quel morceau?
La justice et la loi de Christ.
Alors, pas sur celui-là. On a eu une partie dans le deuxième chapitre et une partie dans le quatrième. Alors, justice, c'était en Romain. Il y avait ce marteau aussi.
Réjouissez-vous
dans le Seigneur. Il y a quelques semaines, on a parlé du fait de se réjouir. Comment se réjouir en toutes circonstances? Comment vivre cela? Et il y a à peu près un an, on avait parlé de l'humiliation et de l'exaltation de Christ. Le chapitre 2, versets 5 à 11. Aujourd'hui, on va voir le passage suivant qui va nous parler d'être des lumières dans le monde. Qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce que, Laurence, tu pourrais nous passer à l'image suivante? On va lire ensemble ce texte qui est juste après que Paul ait introduit finalement le sacrifice de Jésus. Rappelez-vous, je vous rappelle un peu le contexte, quand Paul écrit cet épître, il n'est pas en train d'être sur la côte d'Azur, en train de se bronzer tous les jours. Il est en prison. Il est en prison parce qu'il a parlé de Jésus et qu'il a dit que pour lui, le premier dans sa vie, ce n'était pas l'empereur, c'était Jésus. Et au temps des Romains, on demandait aux gens, pour qu'ils soient membres de l'Empire romain, de dire « Tu dois considérer que l'empereur est Dieu. » Et lui, il a dit « Non, 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 non. » Pour dire que quelqu'un était Dieu, on disait que quelqu'un était seigneur en général. Donc, on disait César est Seigneur, ça veut dire César c'est Dieu, il est un Dieu. Alors ça ne les inquiétait pas les Romains qu'il y ait plusieurs dieux. Il fallait que César soit reconnu comme un Dieu important. Et pour les chrétiens, ils disaient désolé, on ne peut pas faire ça. Et Paul, pourquoi est-ce qu'il va être en prison? En partie à cause de cela. Parce que lui ne va jamais dire que César est Seigneur. Il va dire c'est Jésus qui est Seigneur. Et il va parler juste avant ce texte-là du fait que Jésus lui-même n'a pas essayé de prouver qu'il était plus important que les autres. Il est devenu serviteur. Il a été serviteur des uns et des autres, serviteur jusqu'à mourir par amour pour les autres. Il a accepté de donner sa vie au lieu finalement d'écraser les autres. Vous avez des grands leaders aujourd'hui qu'on respecte, mais si vous regardez, ils ont dû écraser quelques-uns pour arriver à être importants. Au groupe de jeunes, on avait regardé récemment, par exemple, le Social Network, qui était l'histoire du fondateur de Facebook. C'est quelqu'un de très intelligent et qui est le plus jeune milliardaire au monde. Est-ce que ce jeune est arrivé sans avoir écrasé quelques personnes au passage?
Non.
Il a dû écraser des amis, il a dû écraser des personnes et il n'est pas arrivé comme il aurait aimé en disant qu'il est très sympathique. Même si dans son histoire, il y a des aspects vraiment sympathiques. Et la plupart des gens qui montent dans ce monde montent en écrasant d'autres. Et Jésus a dit non, je n'écrase pas, celui qui veut être premier doit être serviteur. Et maintenant on voit comment Paul, après l'exemple de Jésus, va nous rappeler à quoi nous sommes appelés. Il va nous rappeler quelle est la direction pour ceux qui veulent être disciples de Jésus-Christ. Des chrétiens, c'est quoi? C'est des disciples de Jésus-Christ qui disent « Jésus, c'est celui qui me donne l'exemple que je suis dans ma vie. C'est celui qui me montre le chemin pour vivre cette vie de manière honorable et qui plaît à Dieu. » J'aimerais vous lire maintenant les versets 12 à 13. Paul parle aux membres de l'église de Philippe qu'il aime beaucoup. Il leur dit « Ainsi, mes bien-aimés, comme vous avez toujours obéi, travaillez à votre salut avec crainte et tremblement, non seulement comme en ma présence, mais bien plus encore maintenant que je suis absent. Car c'est Dieu qui produit en vous le vouloir et le faire, selon son bon plaisir. » Ces deux versets sont compliqués à comprendre. Vous avez vu le premier verset? Faites de gros efforts travailler avec crainte et tremblement, même quand je ne suis pas là, parce qu'il n'est pas là, il est en prison, et pour votre salut. Travailler avec, à votre salut avec crainte et tremblement. Donc, oulala, ça va être dur, hein. On va devoir faire attention parce que c'est pas facile le salut. Qui c'est qui doit travailler là? C'est nous, hein. C'est nous, il nous dit, si on est comme les membres de l'église de Philippe, il dit aux chrétiens, ben, il faut travailler dur, hein. Et juste après, il y a le deuxième verset, le verset 13. Car c'est Dieu qui produit en vous le vouloir et le faire selon son bon plaisir. C'est qui travaille là?
C'est Dieu.
C'est Dieu? Nous, on a quelque chose à faire?
Non.
Tranquille. Le problème, c'est comment on met les deux ensemble. Comment est-ce qu'on met les deux ensemble? Et la plupart du temps, les chrétiens, on a tendance à être soit d'un côté, soit de l'autre. Et on va voir un peu à quoi ça ressemble quand on est... Si on met que le verset 12, on travaille avec crainte et tremblement. Est-ce que, Laurence, tu pourrais nous passer à l'image suivante? Alors, d'abord, ça c'est un, quand il n'y a pas Dieu déjà. Souvent, imaginez que Dieu est d'un côté, vous êtes de l'autre. Ça, c'est un peu comme ça. Quand on n'est pas du bon côté avec Dieu, finalement, ça ne porte pas beaucoup de fruits. Surtout si lui, il pédale plus fort que nous, on risque de se retrouver là où on ne voudrait pas. Alors maintenant, on va passer à la suivante. À quoi ça ressemble de faire que le verset 12? Vous avez vu l'image du monsieur? Là, il y a un monsieur qui pédale. C'est un tandem, hein. Vous voyez, là, il n'y a personne devant. Et il est étendu, il est tiré. Il s'écrabouille le ventre sur la selle de celui de devant et il essaye de tenir le volant devant. Est-ce que vous croyez que c'est agréable, ça?
Non.
Le pauvre monsieur, il doit souffrir pour arriver à faire avancer ce tandem. Il ne le fera pas avancer longtemps et ce sera des souffrances et des douleurs. Ça, c'est un peu comme ça. Quand dans la vie chrétienne, on se dit, j'ai à faire le boulot, et puis Dieu, finalement, je vais lui montrer que ce que je fais, c'est bien. Des fois, on est un peu comme ça, hein. On a envie de montrer à Dieu. J'ai des gens, des fois, qui me disent, un jour, je viendrai à l'église, un jour, je viendrai à Dieu, mais d'abord, je dois mettre ma vie en règle. Vous savez ce qu'ils font, ces gens-là? Comme si mettre sa vie en règle, on allait y arriver par nos forces. C'est pas facile. Si on n'a pas besoin d'aide au début, il n'y a pas besoin d'aide à la fin. Mais dans ce cas-là, on est comme cette personne qui essaye péniblement de pédaler et de conduire un vélo qui est bien trop grand pour lui. Notre vie, elle est un peu comme ça. Si on essaye de tout faire dans notre vie, c'est pas très agréable. Comment on appelle ça en général dans le christianisme? On appelle ça du légalisme. Le légalisme, c'est quand on essaye de vivre notre foi à la force du poignet. Par nos forces. Alors comment on fait quand on est tout seul? Et bien souvent, il va se passer la chose suivante. On va suivre un ensemble de règles et on va en créer de nouvelles pour nous et pour les autres. Au temps de Jésus, les pharisiens avaient tendance à être légalistes. Ça veut dire qu'ils avaient tout leur ensemble de règles parce que quand on est tout seul, on a peur, on n'est pas rassuré, on n'est jamais sûr qu'on fait bien. Comment on va être sûr qu'on fait bien? Il va falloir qu'on ait des règles précises. Et parfois, on peut vivre la foi chrétienne comme ça, en croyant que vivre la foi chrétienne, c'est un ensemble de règles. Fais pas ci, fais pas ça. Et Paul critiquera ça dans l'épître aux Colossiens, juste à côté de cette épître. Et c'est intéressant parce que si la foi chrétienne, c'est un ensemble de règles, dans ce cas-là, ça veut dire que Dieu, il est en vacances, qu'il peut dormir, qu'il a plus besoin d'être avec nous, et qu'il a juste à nous dire, bah, faites le boulot, je vous ai dit tout ce qu'il faut, et puis quand vous avez tout bien compris, vous m'appelez. Et puis il attend qu'on lui donne un coup de fil, au bout de 2000 ans, c'est bon Jésus, tu peux revenir. On a mis tout en ordre, on a bien compris. Le problème, c'est que les humains, quand on commence à faire du légalisme, on fait des dégâts. On fait des dégâts dans nos vies, et on fait des dégâts dans les vies des autres. On commence à mettre plein de règles. Et ces règles, finalement, humaines, on commence à les imposer aux autres. On dit, si tu ne fais pas ça, alors dans ce cas-là, ça ira pas. Si tu ne viens pas à l'église, si vous ne veniez pas à l'église tous les dimanches, le ciel va vous tomber sur la tête. On trouve ça dans la Bible?
Non.
Non. Est-ce que c'est bon de venir à l'église pour méditer la parole de Dieu, pour recevoir des instructions? Oui. Est-ce que ça veut dire que si vous ne venez pas, est-ce que c'est une règle absolue? Non. Pour que ces règles ne soient que des directions qui ne soient pas écrasantes, il va falloir quelque chose d'autre. Il va falloir quelque chose d'autre. Ce qui manque ici. Ainsi, mes bien-aimés, comme vous avez toujours obéi, travailler avec votre, à votre salut avec crainte et tremblement, non seulement comme en ma présence, mais bien plus encore maintenant que je suis absent. Un point clé de ce verset, c'est obéir. Rappelez-vous que dans la foi chrétienne, on n'obéit pas à un livre, aussi beau soit-il. On obéit à Dieu, on obéit à Jésus-Christ. Ce qu'on cherche dans ce livre, c'est les enseignements de Dieu pour qu'on trouve une relation vivante avec Dieu et qu'on lui obéisse. Mais si on remplace Dieu par ce livre, on fait quoi ? Légalisme. Aussi belle soit la Bible, aussi riche soit-elle, s'il n'y a pas de relation vivante avec Dieu, on est en train d'essayer de faire ça. Et je peux vous dire que c'est fatigant. Il y a des gens des fois qui disent « Oh, moi j'en ai marre, j'ai essayé d'être chrétien, c'est vraiment fatigant. » Pensez à ce vélo-là. Pensez à ce vélo-là, c'est un peu si on essaye de faire finalement fonctionner quelque chose qui n'a jamais été fait pour fonctionner comme ça. C'est comme si vous essayez d'utiliser un doigt pour enfoncer un clou. C'est pas fait pour enfoncer un clou. Avec un marteau, ça se fera mieux. L'obéissance n'est pas à des règles d'abord, mais à une personne. C'est là que l'obéissance prend tout son sens. Et dans la foi chrétienne, quand on parle d'obéissance, on ne dit pas « obéissez à ce verset ». On dit « obéissez à Dieu qui a pu enseigner tel verset, qui a pu enseigner telle règle ». Mais on obéit à une personne, à un Dieu d'abord, et non pas à un verset, à un être humain ou à une chose avant tout. Alors, il y en a qui vont se dire, bon, j'ai compris, finalement, il ne faut pas faire trop d'efforts. On va se concentrer sur le verset suivant. Est-ce que, Laurence, tu pourrais nous passer le verset suivant ? C'est tranquille, on peut lâcher les pédales, on peut même lâcher le guidon intermédiaire qui ne dirige pas mais qui nous permet de nous stabiliser. Qu'est-ce qui va arriver à cette personne quand lui va faire le premier virage ?
Il va tomber.
Lui, il est rusé. Vous avez vu, celui devant, il travaille dur, puis celui derrière, il est tranquille. Quand celui de devant va donner un bon coup d'accélération, qu'est-ce qui va passer à celui de devant ? Une bonne accélération. Et au premier virage, sûr, il va tomber. Ça, c'est la théorie. La théorie du « moi, j'ai Dieu avec moi ». Dieu est pour nous, on n'a rien à faire, c'est lui qui fait tout le boulot. Ça, c'est un deuxième type de foi de personnes dans la vie ou chrétiens qui disent « Moi, j'ai rien à faire, j'ai pas à me soucier, c'est chouette. » Des fois, on va vous dire « Tu donnes ta vie à Jésus, tu dis que tu le veux comme ton Seigneur, ton Maître, et après, tu n'as plus rien à faire. Après, tu peux être comme ça. » Et au premier tournant, difficile dans votre vie, qu'est-ce qui se passe ? On tombe, puis après on dit « Ah, Dieu n'est pas Dieu, il ne fonctionne pas. » Oh là, attention, attention. Est-ce que vous avez mis les pieds sur les pédales et sur le guidon ? C'est ce qu'on verra après. Le problème, c'est que si on laisse finalement en théorie Dieu faire tout le travail, ben on ne va pas avancer avec lui. Et un jour ou l'autre, on se retrouve tout seul. Et on commence à souffrir. Alors, cette partie-là, on a deux noms. Ça peut prendre deux formes. Je vais vous demander de répéter après moi, c'est compliqué. Antinominianisme. Vous pouvez dire avec moi, antinominianisme. Second, c'est facile, mais le premier, répétez encore une fois, antinominianisme. Alors, on va découper en morceaux. Anti, ça veut dire contre, opposé. Nomos, en grec, ça veut dire la loi. Et donc, antinominianisme, c'est anti-loi. Nous, on est des gens, on ne veut pas de loi. Jésus est mort pour nous, il a été sacrifié pour nous. Nous, aujourd'hui, nous avons juste à accueillir ce sacrifice, on n'a rien à faire. Alors, il y en a qui arrivent à cette étape-là, après avoir essayé la première. La première, c'est, ils ont ramé, ils ont travaillé dur pour un projet qui leur semblait être de Dieu. Peut-être que c'est un projet bon, mais ils ont essayé de le faire tout seul et ça n'y arrivait pas. À un moment, ils se disent « J'en ai marre, ça n'a pas marché, maintenant, je ne fais rien, tranquille, advienne que pourra, et la chute du vélo ne tardera pas. » Une autre façon de décrire ce phénomène, c'est le fatalisme. Antinominianisme, ceux qui disent « Il n'y a rien à faire ». Fatalisme, c'est un peu pareil. Fatalisme, c'est ceux qui disent « De toute façon, advienne que pourra, Dieu fait ce qu'il veut, moi, j'ai rien à faire. S'il veut me détruire, il me détruit. S'il veut me sauver, il me sauve. C'est son boulot. Moi, je fais mon petit bonhomme de chemin. Je sais ce que c'est que faire du bien. J'ai pas besoin qu'on m'explique. Regardez juste autour de vous les gens qui disent ça, si vous en pensez. En général, ceux qui disent ça, regardez-les bien. Vous allez voir tout le mal qu'ils font. Eux ne le voient pas. Et pensez que quand vous dites la même chose, vous faites aussi du mal. Parce que quand on ne prend pas d'enseignement et qu'on dit « moi, je sais ce que c'est », imaginez un enfant, vous lui dites « tu ne dois pas prendre les jouets de ton frère parce que sinon tu vas le faire pleurer. » Puis le petit enfant vous dit « non, non, t'inquiète pas, je sais ce que je fais. » Quand c'est petit, on sait reconnaître ça. Mais quand on est adulte, nous, on aime bien ça. Hein, je fais ce que je veux. Antinomianisme et fatalisme sont deux facettes de la même réalité. Les uns comme les autres ne se préoccupent pas d'avancer derrière, de suivre Dieu. Ne se préoccupent pas de faire ce que Dieu demande et... Je dirais, on peut y arriver après un échec dans notre vie en se disant, ben, comme je n'ai pas réussi à avoir ce que moi je voulais, eh ben Dieu il fait ce qu'il veut. Moi je ne veux plus faire d'efforts. Moi c'est ce que je voulais. Et le paradoxe, c'est qu'il y a des choses qui semblent bonnes dans ce monde, mais peut-être que Dieu a quelque chose de meilleur. Et ça, on a du mal à l'avaler. On a du mal à accepter que ce n'est pas nous qui sommes au guidon, mais que ça va être Dieu qui est au guidon pour diriger le tandem. Parce que ça veut dire que ce n'est pas nous qui allons choisir où ça va. Ce n'est pas nous qui allons décider qu'est-ce qui va marcher, dans quel pays on va aller. Nous, dans la foi, on aime bien être aux commandes et pas trop se fatiguer. Notre rêve, ça serait de diriger et de ne pas pédaler. Ça serait le rêve humain. Mais en général, on tombe soit dans... Ça s'appelle comment l'étape précédente, là, celui qui essaye de tout faire ? L'égalisme. Et celui qui veut plus rien faire parce que de toute façon il n'a pas envie de se fatiguer, c'est
fatalisme
ou antinominianisme. Ce deuxième verset, le verset 13, nous dit « Car c'est Dieu qui produit en vous le vouloir et le faire, selon son bon plaisir. » Vous voyez bien qu'il y a les deux. En fait, si on doit combiner les deux, on prend conscience que c'est plus que cette idée et qu'on va devoir apprendre comment on travaille en tandem, comme si on était la deuxième personne qui accepte qu'elle a à pédaler et que la direction va être donnée par qui ?
Par Dieu.
Par Dieu. Alors cette direction, c'est pas une direction dans tous les détails de la vie. Dieu, son souci, c'est pas de savoir les détails de nos vies. Son souci, c'est qu'on apprenne une chose dans cette vie. Vous savez ce qu'il veut qu'on apprenne, Dieu, dans cette vie ? Il veut qu'on apprenne à aimer. Il veut qu'on apprenne à aimer. À aimer notre prochain, à aimer Dieu, à aimer la création. Aimer, ce n'est pas être sympathique, c'est pas avoir des jolis sentiments. C'est être généreux, être bon, faire du bien. Si vous avez un enfant à qui vous dites « Je t'aime, Dieu me bénit, il te bénit mon enfant » et puis l'enfant dit à sa maman « Maman, j'ai faim » et la maman lui dit « Je t'aime, Dieu te bénit mon enfant. » Et l'enfant il tire, « Maman j'ai faim. » Un mari, ça marche ça si
non.
Dieu t'aime mon enfant, on va prier ensemble, on va faire une soirée de prière. Si il n'y a pas finalement un amour concret, avec les pédales en train de pédaler, ça ne va pas fonctionner. Et finalement, ce qu'il y a à découvrir dans la foi chrétienne, c'est que Dieu veut nous délivrer. Le salut, qu'est-ce que c'est le salut ? Ça veut dire la délivrance. Délivrance de quoi ? De nos problèmes de tous les jours ? Non. Dieu ne nous délivre pas des problèmes de tous les jours. Si vous voulez Dieu, un Dieu qui délivre de tous les problèmes de tous les jours, rappelez-vous que Jésus-Christ, Dieu ne l'a pas délivré de tous les problèmes de tous les jours. Il est mort comment Jésus-Christ ? Dans son lit ? Il est mort sur la croix. Mais par amour, il n'a jamais été destructeur, il a toujours été un exemple d'amour de Dieu et de son prochain. Et il nous a ouvert le chemin, parce qu'il était le Fils de Dieu qui nous a ouvert ce chemin. Et de même nous, le but quand on pédale, c'est finalement de suivre, de faire ses efforts à la suite de Dieu. Pas tout seul, mais à la suite de Dieu. On a à accueillir Dieu dans nos vies. Des fois, on se sent loin de Dieu. Qu'est-ce qu'on doit faire quand on se sent loin de Dieu ? En général, quand on se sent loin de Dieu, c'est qu'on n'a pas laissé Dieu à la première place, qu'on a mis autre chose à la première place. Ça peut être famille, enfant, travail, choses, différentes formes. On a à se repentir et dire, Dieu, si c'était ce Dieu qui enseigne à aimer, si tu es ce Dieu qui est le créateur de cet univers, moi je veux te mettre à la première place. Moi je veux te mettre en premier. C'est pas un Dieu destructeur qui détruit, qui aime tuer. Je lisais quelqu'un qui dédiait un livre à Kali. Kali, c'est une déesse du panthéon hindou. Vous savez ce qu'elle fait, Kali ? C'est la destructrice. Et dans la plupart des siècles passés, en général, on sacrifiait des enfants ou des personnes qu'on tuait pour plaire à cette déesse. Le Dieu de Jésus-Christ n'est pas comme ça. On n'a pas besoin de tuer, on n'a pas besoin de détruire. Et on a, par contre, à laisser notre orgueil mourir. Ce désir d'être premier dans ce monde, ça, il doit mourir. Et ensuite, on va pouvoir combiner nos efforts pour qu'on soit deux à pédaler et à avancer dans la vie. Mais en général, l'être humain, on est comme ça. On veut faire des efforts seulement quand c'est notre volonté qui pilote. On veut faire des efforts que quand c'est notre volonté qui dirige. Mais quand c'est quelqu'un d'autre, d'abord, soyez sûr que Dieu est bon. Si vous n'êtes pas sûr que Dieu est bon, apprenez à connaître Dieu avant de chercher à pédaler avec lui. Mais en même temps que vous découvrez que Dieu est bon, qu'il est amour et qu'il est vérité, prenez conscience qu'à un moment donné, il va falloir lâcher le morceau. Il va falloir dire, c'est toi Dieu qui est le premier dans ma vie. Je veux pédaler à ta suite. Je veux être disciple de Jésus-Christ. Je veux avancer en acceptant que j'ai à faire des efforts, mais ce n'est pas moi le chef. Ce n'est pas moi le pilote. Mais je crois qu'on va arriver à quelque chose qui a beaucoup de valeur. Comme Dominique le mentionnait, cherchez d'abord le royaume de Dieu et tout le reste vous sera donné ensuite. Est-ce que Laurence, tu pourrais passer à la suite, à l'image suivante? Je vous relis les versets. Et j'aimerais que vous les lisiez avec moi, les versets 12 et 13. Ainsi, mes bien-aimés, comme vous avez toujours obéi, travaillez à votre salut avec crainte et tremblement. Non seulement comme en ma présence, mais bien plus encore, maintenant que je suis absent. Car c'est Dieu qui produit en vous le vouloir et le faire selon son bon plaisir. Faites toutes choses sans murmure ni hésitation, afin que vous soyez irréprochables et purs, des enfants de Dieu, irrépréhensibles au milieu d'une génération perverse et corrompue, parmi laquelle vous brillez comme des flambeaux dans le monde, portant la parole de vie, et je pourrais me glorifier au jour de Christ de n'avoir pas couru en vain, ni travaillé en vain.
Amen.
Si quelqu'un lit ce verset et que la personne dit « Moi, je suis un super chrétien, je suis un flambeau dans le monde, regardez-moi », il est de quel côté ? On lui donnera quelle étiquette dans les deux étiquettes que je vous ai données avant? C'est moi qui ai... Hein? Quelque part, on est dans le légalisme. Quand quelqu'un commence à faire le fier, un peu comme les coqs, là, on lève le tête, puis on dit « je suis un super chrétien » et qu'on croit qu'on est supérieur, on est finalement déjà en train de... On est coupé de Dieu parce que Jésus, il n'a jamais fait comme ça. Et on tombe forcément dans le légalisme où on est en train de dire « oh, moi, je travaille avec force et crainte et tremblement » je jeûne deux fois par semaine, je fais 5 heures de prière tous les soirs, etc. Vous prenez bien conscience qu'il va y avoir quelque chose de ça. Hein? Et si vous dites, oh non, moi vous savez, moi je suis un chrétien, je ne vois rien, je fais les péchés, mais vous comprenez, je suis un petit chrétien, on est de quel côté?
Fatalisme.
Fatalisme ou antinominianisme dans le sens, on appelle ça aussi de la fausse humilité. De dire, oh vous savez, moi je suis pas grand chose, puis en fait on n'en fait pas lourd, on a les pieds levés, on pédale plus. On a besoin des deux. On a à faire des efforts. Aimer demande des efforts. Et aimer Dieu et son prochain, ça ne se fait pas sans qu'il y ait des efforts. Mais ces efforts sont des efforts à la suite de Dieu. Et ces efforts feront de nous, nous l'espérons, des lumières dans ce monde. Dans ce monde où chacun cherche son propre intérêt. Chacun cherche à tirer la couverture à lui ou à elle pour son avantage. Jésus-Christ nous invite à faire l'inverse, à être des serviteurs, à être humbles, serviteurs, non pas des serviteurs fainéants, mais des serviteurs qui travaillent à aimer leur prochain et à vivre une vie qui soit la gloire de Dieu. Si on n'a pas de relation avec Dieu, s'il n'y a pas ça, vous pourrez essayer fort. Vous allez vous casser la figure. Et vous aurez bien du mal. Vous vous rappelez le gars là qui est sur son vélo là ? Et vous n'y arriverez pas. Est-ce qu'on peut passer à l'image suivante ? Maintenant, ma question est la suivante. Et vous ? Est-ce que vous avez une relation avec Dieu ? Est-ce que ce que veut Dieu, ça ne vous intéresse pas ? Vous faites l'inverse ? Est-ce que vous dites, oh ben oui, je vais plaire à Dieu. Je vais faire tout ce qu'il veut, je vais faire de gros efforts, mais sans prendre conscience que vous avez besoin de l'aide de Dieu à chaque étape. Et que vous essayez de tout faire par vos forces. Est-ce que c'est vous ? Est-ce que vous êtes plutôt des personnes, moi je suis cool, moi je suis tranquille, je suis sympa avec tout le monde, je ne fais pas trop d'efforts, et par contre, il ne faut pas qu'on me juge. On ne me dit rien de mal parce que moi je suis cool. Tranquille, ou bien il advienne que pourra, ça m'est égal ce qui va arriver, ou bien de dire moi Jésus il m'aime et j'ai rien à faire. Est-ce que vous êtes comme ça, ou est-ce que vous êtes comme ce tandem ici où vous avez vous voyez les deux sont en train de dire c'est ok, ça marche bien avec le doigt, désolé l'image n'est pas très bonne, et les deux avancent et les deux font un effort ensemble. C'est ce que Dieu veut faire avec vous et avec moi. Est-ce que c'est ce que vous souhaitez ? Est-ce que c'est ce que vous voulez découvrir ? Et je vous invite à méditer pendant cette semaine ces deux versets 12 et 13. Comment ils se combinent dans votre vie ? Si vous essayez de tout faire par vos forces, rappelez-vous de prier, de demander à Dieu son aide et de demander à Dieu s'il y a des choses, s'il y a des tournants qu'on a pris dans la vie qui n'étaient pas ce qu'il voulait, pour qu'on retrouve cette communion avec Dieu, cette paix intérieure qui va nous donner de la force, qui va nous donner la capacité d'avancer, d'aimer, de briller comme des lumières dans ce monde. Et si vous avez lâché les pédales en disant « ça ne va pas où je veux », si vous avez eu l'idée que finalement, advienne que pourra, fataliste, je ne pédale plus, est-ce que vous êtes prêt à demander à Dieu « c'est où que toi tu veux me mener ?» Où est-ce que toi tu veux me mener et moi je veux apprendre à te suivre ? Parce qu'ici c'est bien facile de dire ce n'est pas ce que j'ai voulu qui est arrivé donc j'arrête de pédaler. Mais peut-être que Dieu a des choses encore meilleures. Mais ça veut dire qu'on ne va pas s'attacher à des règles, on va s'attacher à une personne. Ça veut dire qu'on ne va pas dire par exemple, je pourrais donner l'idée, Dieu ce qu'il veut dans ma vie, c'est que j'ai des enfants. Si j'ai pas d'enfants, je lâche les pédales, il n'a pas fait ce que je voulais, j'arrête de pédaler. Je pourrais faire comme ça. Ou moi, ce que je veux dans ma vie, c'est tel travail. Si j'ai pas tel travail, j'arrête de pédaler. Parce que ce que Dieu veut, et là on se prend pour le bon Dieu quand on fait ça, hein, ce que Dieu veut, c'est que les hommes travaillent ou que les femmes ont des enfants, etc. Ce que Dieu veut, c'est pas ça. Ce que Dieu veut, c'est qu'on apprenne à aimer. Tout le reste, c'est des éléments que Dieu peut utiliser pour nous apprendre à aimer. Mais les pédales, si on ne met pas les pieds dessus, on va se casser la figure. Et ça sera douloureux. Et je vous invite à méditer cela et à dire, est-ce que vous êtes prêts à découvrir et à vivre toujours plus la vie en tandem avec Dieu ? Quand vous êtes en tandem, qui c'est qui contrôle le guidon ? C'est Dieu. Et nous, qu'est-ce qu'on fait ? On pédale avec lui et on se réjouit, on avance ensemble. Est-ce que vous êtes prêts à ce tandem avec Dieu ? On va finir par un moment de prière où je vous invite à sonder votre cœur. Et s'il y en a parmi vous qui étaient ailleurs que dans ce tandem-là et qui aimeraient être sur ce tandem-là, je vais faire une prière que si vous le souhaitez, vous pouvez répéter, qui va être une prière qui demande à Dieu de nous aider à vivre ce tandem. Donc ceux qui le veulent, je vous invite à prier après moi. Les autres, vous pouvez simplement être silencieux et méditer comment mettre en pratique cet enseignement dans votre vie. Seigneur Jésus-Christ, et ceux qui veulent prier à haute voix, ceux qui veulent prier à voix basse, vous le faites aussi, et ceux qui veulent simplement écouter, ça va bien. Merci pour ton sacrifice pour moi.
Merci pour ton sacrifice pour moi.
Merci d'avoir montré le chemin pour apprendre à aimer.
Merci d'avoir montré le chemin pour apprendre à aimer.
Je veux apprendre à te suivre.
Je veux apprendre à te suivre.
Je veux être ton disciple.
Je veux être ton disciple.
Apprends-moi à pédaler avec toi.
Apprends-moi à pédaler avec toi.
Apprends-moi à te donner la direction de ma vie.
Apprends-moi à te donner la direction de ma vie.
Je veux te suivre dans tous les domaines.
Je veux te suivre dans tous les domaines.
Apprends-moi à aimer.
Apprends-moi à aimer.
Apprends-moi à être une lumière de ton amour.
Apprends-moi à être une lumière de ton amour.
Merci Père Céleste. Je prie dans le nom de Jésus-Christ.
Je prie dans le nom de Jésus-Christ.
Amen.
Amen.
Maintenant, Seigneur, nous te donnons cette minute de silence, que tu sondes nos cœurs, que tu nous montres là où nous avons à apprendre, afin que nous puissions être dans ce tandem joyeux où nous pédalons avec toi. Montre-nous dans le secret de nos cœurs, Seigneur, ce que toi tu veux montrer. Amen.